Fun vers l'Afrique, tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 19 août, nous sommes en direct de Washington. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Amérique. Avec vous ce soir, Nicolas Pinault et Claire Morin-Gibourg. Bonsoir Claire.
Bonsoir Nicolas, à la une ce soir.
Depuis Brazzaville, le président du CNT centrafricain demande de sursoir à la formation du gouvernement.
Mardi 19 août, journée 1 mondiale de l'aide humanitaire, coup de projecteur sur les ONG maliennes.
Nous attendons plus de 150 000 réfugiés maliens qui sont à l'extérieur, qui sont revenus, et nous assurons leur retour.
Boko Haram profite de l'épidémie d'Ebola pour étendre son champ d'action dans le nord du Nigeria.
Au Bénin, le passage à la télévision numérique est prévu pour dans un an.
Dans ces conditions, le passage de l'analogique au numérique risque de nous rendre encore analphabètes, parce que sans poste téléviseur, vous savez que l'on est l'alphabète.
Sans oublier les sports, en fin d'émission avec Bagassi Koura. Mais tout d'abord, le journal. Vous écoutez La Voix de l'Amérique. Bonsoir.
Voilà qui complique un peu plus les choses en Centrafrique. Alors que le pays attend toujours la formation d'un nouveau gouvernement, c'est depuis Brazzaville qu'Alexandre Ferdinand Nguédet jette un pavé dans la mare. Le président du Conseil national de transition demande de sursoir à la mise en place d'un nouveau gouvernement dans son pays, estimant que le Premier ministre désigné récemment ne fait pas l'unanimité. Pour rappel, Mahamat Camoun a été nommé Premier ministre le 10 août en remplacement d'André Zapatero afin de former un nouveau gouvernement élargi. On écoute M. Ndeke.
La concertation, il faut privilégier le dialogue. C'est pourquoi il serait important de sursoir à la mise en place du gouvernement, à dégager un consensus. Et s'il faut faire des sacrifices pour que le peuple centrafricain puisse vraiment avoir la quiétude, la sérénité.
Alexandre Ferdinand Nguédet, le président du CNT. La délégation centrafricaine a déjà quitté Brazzaville et devrait arriver ce soir à Bangui, dans la capitale centrafricaine. Justement, une manifestation de soutien à la présidente Catherine Samba-Panza a eu lieu. Plusieurs dizaines de jeunes ont manifesté cet après-midi devant le siège du Parlement provisoire. Ils dénoncent ce qu'ils qualifient de tentative de déstabilisation de la transition depuis Brazzaville. Le point tout de suite avec Félix Yepassi Zembrou.
Pour les manifestants, le déplacement depuis lundi d'une délégation centrafricaine à Brazzaville cache beaucoup de choses. Ils voient en cela une tentative d'éviction de l'actuelle présidente de la transition. Francis Mongombe, coordonnateur du groupe de contact des organisations des associations des jeunes.
Ce qui se passe ressemble drôlement à ce qui s'est passé à N'Djamena. Nous pensons que cela ne peut plus se refaire. S'il faut dorénavant choisir ceux qui doivent diriger la destinée de la République centrafricaine, ça sera aux centrafricains de le choisir.
Pour le collectif des partis politiques de l'ancienne majorité présidentielle, un tel voyage doit impliquer toutes les forces vives de la nation. Laurent Gon Baba, président du parti pour l'Alliance démocratique.
Le collectif de l'ancienne majorité a relevé lundi 18 août qu'une infime partie des forces vives de la nation s'est rendue donc à Brazzaville. Nous avons pensé qu'une telle démarche devait faire en sorte que l'ensemble des forces vives de la nation soit impliquée dans le processus.
Le ton est monté également dans le camp des anti-Balaka. Sébastien Wenezui, le coordonnateur général adjoint convié à Brazzaville, vient d'être suspendu provisoirement selon un communiqué du mouvement. Une décision balayée du revers de la main par l'intéressé qui affirme avoir saisi le coordonnateur général avant son départ.
Le virus de l'Ebola a encore fait de nouvelles victimes. Aujourd'hui, 84 autres personnes sont mortes de la fièvre hémorragique en Afrique de l'Ouest, portant le nombre de morts causées par l'épidémie dans la région à 12 029. Le point avec Sarah Diaby.
L'Organisation mondiale de la santé qui a fourni ces chiffres a annoncé aujourd'hui que le nombre de cas d'infection confirmés et probables est passé de 2240, dont 113 nouveaux cas enregistrés en fin de semaine dernière. La majorité des nouveaux décès se sont produits au Libéria où les autorités ont du mal à contenir le virus. Dimanche, 17 patients atteints de la maladie avaient fui leur centre d'isolement en Monrovia, attaqués par des hommes armés. Les 17 patients qui ont fui le centre pour malades d'Ebola ont tous été retrouvés. Ils se sont rendus à pied d'eux-mêmes à l'hôpital JFK. Le principal établissement du pays a déclaré le ministre libérien de l'information, Lewis Brown. Par ailleurs, 6 professionnels de santé infectés par la maladie réagissent positivement à un sérum expérimental américain. Une grande partie du système de soins de santé mis en place à Monrovia a fermé en raison de craintes d'Ebola chez les médecins et le personnel soignant. Les gouvernements ont ouvert des centres de quarantaine dans diverses régions de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone pour éviter la propagation de la maladie.
Une petite correction sur le nombre de morts causés par l'épidémie, il s'agissait de 1229 morts et non pas 12029.
Et la Banque africaine de développement a accordé une aide de 60 millions de dollars aux pays touchés par l'épidémie du virus Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest. C'est ce qu'a annoncé ce mardi depuis Abidjan son président Donald Kaberouga. Une annonce faite dans la capitale économique ivoirienne où la BAAD retrouve son siège après 11 ans d'absence. En raison de l'instabilité politique dans le pays, après un exil à Tunis, la BAAD retourne donc en Côte d'Ivoire, comme nous l'explique Germain Dri.
Délocalisée à Tunis, en Tunisie pour cause des crises, la BAAD, Banque africaine de développement, a retrouvé son siège au bord de la lagune Ébrié. Le retour de cette institution continentale à Abidjan a été salué par de nombreux Ivoiriens. Ernest Yoboué.
Nous apprécions le retour de la BAAD, ce qui signifie la vitalité de l'économie ivoirienne et que la sécurité est de retour. Aujourd'hui, avec le retour, ces emplois reprennent, les boys, les servantes, etc., etc. Ils vont aller au supermarché, ils vont consommer l'eau, l'électricité. Donc, ceci contribue à améliorer l'économie ivoirienne.
Pour concrétiser la reprise de ses activités en Côte d'Ivoire, le président de la BAAD a animé une conférence de presse où il a analysé la situation financière du continent. Donald Kaberouga.
Depuis l'an 2000, notre continent fait des progrès. Le taux de croissance en Afrique subsaharienne cette année est prévu à 6,5%. Donc, le premier élément de réduire la pauvreté, c'est la croissance soutenue. Mais cela ne suffit pas. Il faut que cette croissance soit partagée, qu'il soit inclusif, qu'il bénéficie à tout un chacun et au-delà de croissance économique, qu'est une transformation de tissu économique.
Partie depuis 11 ans de la Côte d'Ivoire, la Banque africaine de développement a repris ses activités à Abidjan avec environ 1000 travailleurs. Germain Dri, Abidjan, la voix de l'Amérique.
Et bientôt le procès de l'affaire dite des bérets rouges au Mali. Le juge d'instruction vient de boucler la première phase de l'instruction. Déjà, les résultats des tests ADN confirment que les 21 corps de militaires retrouvés dans le charnier de Diago sont des corps de bérets rouges proches de l'ancien président malien Amadou Toumani Touré. Kassim Traoré pour plus de détails.
Cela fait quelques jours que le juge d'instruction Yaya Karambé a communiqué les dossiers de fin d'instruction de l'affaire dite des bérets rouges au procureur de la commune 3. Il revient au procureur de la commune 3 de faire son réquisitoire définitif avant l'ordonnance de clôture du juge d'instruction Yaya Karambé. C'est après que le parquet va fixer la date du procès du général Amadou Aya Sanogo et compagnons. Déjà dans les dossiers transmis au procureur de la commune 3, les tests ADN des corps retrouvés dans les charniers de Diago ont été confirmés par le laboratoire d'analyse américain. C'est mardi 19 août 2014, le juge d'instruction Yaya Karambé quitte Bamako pour un voyage de 3 semaines aux États-Unis sur invitation du gouvernement américain. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
L'Éthiopie est devenue le plus grand pays d'accueil des réfugiés sur le continent africain en raison de la détérioration de la crise au Soudan du Sud, annonce ce mardi du Haut Commissariat pour les réfugiés. L'Éthiopie a ainsi dépassé le Kenya en termes d'accueil de réfugiés et abrité fin juillet près de 630 000 réfugiés.
Pendant ce temps, à Kinshasa a débuté la dernière opération de rapatriement volontaire des réfugiés angolais installés en République démocratique du Congo. Certains d'entre eux vivent en RDC depuis 1962 et le début de la longue guerre d'indépendance contre le Portugal. En tout, 29 000 Angolais seront rapatriés, s'ajoutant aux 76 000 qui sont déjà rentrés au pays depuis 2003, selon le HCR. Le premier convoi de 500 personnes est parti ce matin de la gare centrale de Kinshasa. Céline Schmitt est la porte-parole du HCR en RDC.
Nous sommes presque arrivés à destination à Kinpeche. Une fois à Kinpeche, les réfugiés passeront la nuit dans un centre de transit. Et demain, le transport se fera par bus. Donc demain, ils seront transportés par bus jusqu'à la frontière angolaise et ensuite jusqu'à un centre d'accueil en Angola avant de rejoindre ou regagner leur village d'origine. Il y a un certain nombre de réfugiés aujourd'hui dans le train qui ont passé plus de 40 ans en RDC et qui disent que maintenant le temps est venu, ils veulent rentrer chez eux. L'Angola est leur pays et ils veulent rentrer.
Céline Schmitt, porte-parole du HCR en RDC.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Il est 18h40, temps universel. Dans le reste du monde, à Gaza, les combats menacent de reprendre entre Israël et le Hamas. Une situation qui survient au moment même où les représentants des deux camps négociaient la prolongation d'un cessez-le-feu. Le point avec Lola Akomachri.
L'armée israélienne a procédé aujourd'hui à des frappes aériennes dans la bande de Gaza en représailles à 3 roquettes tirées depuis l'enclave palestinienne en direction de la ville israélienne de Beersheba. Aucune victime n'a été rapportée de part et d'autre. Les négociations sur les conditions d'une trêve durable avaient repris ce mardi en Égypte avant de voler en éclats le Hamas qui a violé en premier le cessez-le-feu temporaire conclu au Caire, accuse Israël de traîner les pas. Suite aux derniers incidents, les négociateurs israéliens se sont retirés de la table de discussion alors que la veille au soir, ils s'étaient accordés in extremis avec leur homologue du Hamas sur une prolongation de la trêve instaurée depuis le 11 août. Ce cessez-le-feu est censé expirer ce mardi à minuit.
En Irak, les djihadistes de l'État islamique ont été attaqués ce mardi sur plusieurs fronts, y compris dans l'ex-fief de Saddam Hussein à Tikrit. Dans le même temps, l'ONU annonce une vaste opération humanitaire pour aider 500 000 de personnes déplacées par les violences.
Et de l'autre côté de la frontière, en Syrie, le nombre de combattants de l'État islamique a dépassé les 50 000 djihadistes, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. C'est en tout cas ce qu'affirme Rami Abdelrahman, le président de cette ONG, qui précise que 6 000 nouveaux combattants ont été recrutés pour le seul mois de juillet.
Aux États-Unis, la ville de Ferguson dans le Missouri connaît un semblant de retour à la normale ce mardi après une nouvelle nuit d'émeute qui s'est soldée par 6 blessés par balle et plus d'une trentaine d'arrestations. Plus d'explications avec Jean-Roger Bion.
Dans la matinée, le calme était revenu, mais la présence policière demeurait très importante dans le centre de Ferguson. Des volontaires nettoyaient les rues et effaçaient les traces des émeutes de la nuit. Pour établir un nouveau dialogue, le maire de la ville, James Knowles, a annoncé aujourd'hui, selon l'AFP, une série de mesures dont le soutien au programme qui favorise le recrutement de Noirs au sein de la police. La mort de Michael Brown en plein jour dans un quartier résidentiel, alors qu'il n'était pas armé, est à l'origine des émeutes dans cette localité de 21 000 habitants. Pas moins de 3 autopsies ont été demandées par les autorités locales, la famille et le ministre de la Justice, pour tenter de faire la lumière sur les circonstances de la mort du jeune homme. Un porte-parole du procureur du comté de Saint-Louis a indiqué aux médias qu'un grand jury chargé de décider s'il y a lieu de poursuivre le policier devrait étudier l'affaire dès mercredi. Le ministre américain de la Justice, Eric Holder, est attendu demain mercredi à Ferguson pour rencontrer les responsables de l'enquête fédérale sur le meurtre ainsi que des leaders communautaires.
En Ukraine, l'armée gouvernementale affirme avoir découvert 17 corps de civils dans la région de Lugansk, dans l'est du pays, où une colonne de réfugiés a subi des tirs au lance-roquettes attribués ce mardi par Kiev aux séparatistes pro-russes. Les détails avec Jacques Aristide.
Les recherches pour retrouver d'autres corps ont été suspendues du fait des combats qui se poursuivent dans la zone, a indiqué le porte-parole militaire ukrainien et Andriy Lysenko d'ajouter que les tirs ont tué des dizaines de personnes, dont des enfants près du bastion des rebelles à Lugansk. Les insurgés pro-russes ont démenti avoir tiré sur des réfugiés, accusant au contraire les forces ukrainiennes. Sans attribuer de responsabilité, le département d'État américain a condamné l'attaque, appelant les deux parties belligérantes à prendre toutes les précautions pour protéger des vies innocentes. Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a estimé que les informations sur ce bombardement sont très inquiétantes et a réclamé que les civils puissent quitter les zones des combats en toute sécurité. Deux émissaires onusiens, le secrétaire général adjoint aux affaires politiques, Jeffrey Feltman, et la patronne des opérations humanitaires, Valérie Amos, vont se rendre à Kiev cette semaine. De son côté, le Kremlin a annoncé que le président russe Vladimir Poutine se joindra à son homologue ukrainien Petro Poroshenko à une rencontre de haut niveau prévue la semaine prochaine au Bélarus et qui portera notamment sur la stabilisation de l'Est de l'Ukraine.
En Afghanistan, Hamid Karzai exhorte les deux candidats à la présidentielle à mettre fin le plus tôt possible à leur désaccord. Une déclaration faite à l'occasion du 95e anniversaire de l'indépendance du pays. Depuis le second tour de la présidentielle en juin dernier, ni Abdullah Abdullah ni Ashraf Ghani n'ont pu se départager pour succéder à Karzai.
Voilà pour ce journal au micro, Claire Morin-Gibourg et Nicolas Pineau, en direct de Washington. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique.
Mardi 19 août, journée mondiale de l'aide humanitaire, l'occasion de souligner les conditions de travail difficiles des organisations humanitaires. À Bamako, l'événement a été marqué par une cérémonie réunissant tous les acteurs humanitaires au Centre international des conférences. Le point avec Kassim Traoré.
Cette journée est à sa deuxième célébration consécutive au Mali. Occasion pour le ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la reconstruction des régions nord de saluer les acteurs de ce domaine qui se sont sacrifiés. Amadou Konaté.
Le sacrifice a été respecté. Le dépassement de la stupidité a été réel. Parce qu'en fait, plus fort que la barbarie, l'humanité et la force de l'humain a pris le dessus.
Parmi la panoplie d'organisations humanitaires présentées, il y avait le bureau Mali de l'Organisation mondiale de la santé, Ablaye Cissé.
Depuis la crise de 2012, donc l'OMS a activé vraiment ce qu'on appelle le cluster santé, composé de tous les acteurs humanitaires, toutes les ONG qui œuvrent en matière de la santé. Je trouve au nord comme au sud, sont sous la coupole de l'Organisation mondiale de la santé pour mener des actions humanitaires. Donc célébrer une journée mondiale de l'action humanitaire ne peut être que salutaire.
Le Haut Commissariat aux réfugiés tient son stand à l'exposition de cette journée mondiale de l'action humanitaire au CICB. Camille Fogny, administrateur de prospection au Haut Commissariat pour les réfugiés.
Nous attendons plus de 150 000 réfugiés maliens qui sont à l'extérieur, qui sont revenus, et nous assurons leur retour, leur intégration dans leur lieu de retour, de la même manière que les centaines de milliers de personnes déplacées qui retournent chez eux.
Jakarija Dambélé, chargé de communication à Otcha Mali, bureau de coordination des affaires humanitaires du système des Nations Unies.
On a beaucoup plus de besoins humanitaires et on a de la peine à couvrir ces besoins, non seulement par rapport aux ressources humaines, mais aussi par rapport aux ressources financières.
Cette journée a permis aux participants de visiter une vingtaine de stands des organisations humanitaires nationales et internationales qui se battent sur différents fronts afin d'apporter des solutions aux plus démunis. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Et toujours concernant cette journée, en 2013, le nombre d'humanitaires enlevés, blessés ou tués a atteint un record, a déclaré Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, et des millions de personnes dans le besoin en subissent les conséquences. Nathalie Barge a joint Robert Piper, il est le secrétaire sous-secrétaire général de l'ONU et surtout coordonnateur humanitaire régional pour le Sahel.
Le message, c'est de reconnaître cette force, ces travailleurs humanitaires qui travaillent aujourd'hui, d'ailleurs des héros humanitaires qui travaillent de jour en jour, dans des régions très dangereuses, dans des situations très très difficiles, physiquement, psychologiquement, qui sont d'ailleurs surtout des acteurs des communautés locales, nationales, qui font du travail extraordinaire avec des ONG, mais aussi avec les services étatiques. Et moi-même, je voyage beaucoup dans les régions et je vois le travail aussi de ces acteurs étatiques. Mais deuxièmement, un message de s'assurer qu'il y a quand même une protection pour ce genre de travail. L'année dernière, on a vu une augmentation dramatique de fatalité des travailleurs humanitaires. Au-dessus de 155 de nos collègues ont perdu leur vie. 134 ont été enlevés. 170 ont eu des blessures très graves. Et je répète, surtout, c'est des nationaux, ce n'est pas nécessairement des expatriés. Déjà en 2014, on a perdu 79 de nos collègues, surtout en Syrie, en Afghanistan, au Soudan du Sud, du Soudan. C'est des chiffres élevés, c'est une honte. Il n'y a pas un respect pour leur faciliter leur travail.
Qu'est-ce que vous auriez à dire sur les questions de déplacement, notamment en Irak, en Syrie? Est-ce que les Nations Unies et leurs partenaires disposent de suffisamment de financement pour gérer ces crises?
Je sais que récemment, on a dépassé quand même 50 millions de personnes déplacées dans le monde. C'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est un chiffre extraordinaire. Ça met des pressions très importantes sur la capacité des bailleurs de fonds de soutenir un travail humanitaire à une telle échelle. Donc nous nous trouvons tous au Sahel, au Soudan, en Somalie, en Syrie, en Afghanistan, en Irak, avec des grands déficits financiers, des grands besoins. On arrive à des besoins au-dessus de 17 milliards de dollars pour le monde en 2014, le chiffre le plus élevé jusqu'à présent. Je dois reconnaître aussi que les gouvernements qui nous soutiennent, surtout la Communauté européenne, le gouvernement des États-Unis, les gouvernements nordiques, etc., le Japon, eux aussi trouvent de plus en plus de difficultés à arriver à soutenir une opération. L'Arabie saoudite a effectivement donné un don très important à l'opération de l'Irak. Nous comptons sur beaucoup de nouveaux bailleurs des pays émergents à partager un peu ce fardeau financier.
Robert Piper était joint à Dakar au Sénégal.
Nigeria, Boko Haram prend avantage de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Alors que le gouvernement s'emploie à contenir la dizaine de cas de fièvre hémorragique signalés dans le sud du pays, les insurgés islamistes opérant dans le nord-est multiplient les enlèvements de villageois qu'ils obligent à combattre à leur côté. Les précisions de Michel Joseph.
Rien que la semaine dernière, une centaine d'otages de Boko Haram ont été libérés à la frontière par les forces de sécurité tchadiennes. Mais on ignore combien sont encore aux mains des militants islamistes. Ces derniers obligent souvent leurs victimes à combattre dans leur rang, explique James Wuye, un pasteur du nord Nigeria qui conseille les anciens otages.
This young people...
Ces jeunes gens là-bas dans la forêt sont sans espoir. Leur seul espoir est de mourir. Nous devons les sauver. Nous devons avoir pitié de tout le monde, d'un camp comme de l'autre. La violence affecte les victimes perçues et leurs agresseurs. Les otages renforcent militairement Boko Haram, qui tente maintenant de contrôler des territoires, explique de son côté Yann Saint-Pierre du groupe de consultants Mosecon, basé à Berlin. Pour ce faire, le groupe islamiste a recours à des tactiques utilisé par Joseph Kony en Ouganda et Charles Taylor en Sierra Leone pour gagner la loyauté de leurs otages, fait remarquer l'expert. En leur faisant tuer leurs propres parents et leur propre famille, ils les placent dans une position de non-retour. Les victimes sont psychologiquement brisées pour avoir tué leurs parents, tué ceux qui leur ont donné la vie, souligne Yann Saint-Pierre. La seule famille à laquelle va leur loyauté, dit-il, c'est le groupe terroriste qui les a kidnappés. À preuve, au moins 9 personnes ont été tuées le mois dernier dans des attaques suicides menées par des femmes au nord Nigeria. 2 filles ont été arrêtées, dont une de 10 ans portant une bombe. Dans les États de l'Adamawa et de Borno, des sources locales disent que Boko Haram occupe et contrôle des villes et des villages, tuant quiconque s'y oppose. Les forces armées ne tolèreront pas une telle situation, a mis en garde leur porte-parole. L'armée nigériane ne concédera aucune portion de ce pays aux terroristes ou à tout autre groupe du genre, a averti le général Chris Olukolade. Toutefois, si Boko Haram continue de terroriser les villageois, il peut contrôler la région sans avoir besoin de hisser son drapeau.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, le spectre du racisme refait surface aux États-Unis après la mort d'un jeune Africain-Américain tué par un policier blanc à Ferguson. Vos commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
Une date à retenir maintenant pour tous ceux qui nous écoutent au Bénin.
Le 17 juin 2015, c'est cette date butoir que les autorités ont décidé pour le passage de l'analogique au numérique. Un événement qui s'annonce coûteux pour les organes de presse et les populations qui devront s'équiper de télévisions adaptées. Reportage depuis Cotonou de Peggy Ludovic Dagba.
Pour avoir force de loi et s'imposer à tous, le gouvernement béninois a introduit à l'Assemblée nationale une proposition de loi qui contient les dispositions nécessaires à une bonne transition. Ce texte de loi vient d'être voté par les députés béninois qui, par cet acte, dotent désormais le Bénin d'un cadre législatif pour la migration. Le ministre béninois de la Communication, Komi Kouché, nous expose ici ses avantages.
C'est la loi qui ouvre la voie à la concrétisation de la révolution. Normalement, à partir du 31 juillet passé, il y a des types d'équipements qui ne sont pas compatibles au numérique. Or, il n'est pas normal que nous laissions nos populations continuer d'acheter, par exemple, des télévisions qui, d'ici un an, ne seront plus utilisables.
La réalité du numérique en 2015 fera saigner les bourses des populations qui devront acquérir de nouveaux postes récepteurs radio et télévision adaptés aux disponibilités techniques en la matière. Antoine est un importateur de matériel électroménager de dernière génération.
Oui, actuellement, il n'y a plus de plasma, il y a LCD, il y a LED, il y a D3.
Et quels sont les coûts ?
À LED, maintenant, sur le marché, ça fait 420 000. Bon, l'autre, là, ça fait 250 000, 260 000 LCD, là. La D3, ça, là, tu vas trouver jusqu'à 850 000, 42.
À ces coûts, les Béninois réagissent diversement.
Le coût de l'écran plasma aujourd'hui au Bénin, nous savons, c'est dans l'ordre de 400, 500, 600 000. Dans ces conditions, le passage de l'analogique au numérique risque de nous rendre encore analphabète parce que sans poste téléviseur, vous savez que l'on est analphabète. Là, on nous oblige à passer à la pauvreté carrément parce que nous, on n'a pas 600 000 pour acheter des écrans plasma.
Que ce soit le changement de télévision pour remplacer la télé numérique que vous avez en train de dire, tout ça là, ça ne rentre pas dans la ligne de conduite du Béninois moyen. Ce que nous aimerions que le gouvernement fasse, c'est de prendre en charge cette histoire-là.
Par rapport à l'évolution, on est obligé de s'adapter. Si ça vaut le coup ne nous aime pas parce qu'on veut suivre l'évolution. Tout le monde veut avoir un placement chez lui. Tout le monde veut avoir toutes les images chez lui. Il est obligé de payer pour ça.
Selon le ministre béninois de la Communication, le gouvernement auquel il appartient accompagnera les populations. C'est donc la veillée d'armes en République du Bénin pour réussir à passer de l'analogique au numérique, sa heure majeure. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, pour La Voix de l'Amérique.
On passe au sport dans cette émission. Nous accueillons Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Nicolas. Bonsoir à tous.
Allez, une page essentiellement consacrée au football, les barrages allés de la Ligue des Champions en Europe.
Oui, ce soir, les Autrichiens de Salzbourg reçoivent les Suédois de Malmö. Steaua Bucarest de la Roumanie affronte Ludogorets de Bulgarie. Beşiktaş de Turquie affronte Arsenal. FC Copenhague de Danemark, Bayern Leverkusen, les Allemands donc. Et enfin, Naples joue contre l'Atlético Bilbao.
Allez, protégez-vous, on va reparler de Luis Suarez. Cette fois-ci, il annonce qu'il ne mordra plus jamais.
Oui, c'est décidément sa semaine. Hein. L'attaquant uruguayen interdit de compétition jusqu'en octobre pour avoir mordu un adversaire a déclaré avoir consulté, ce sont ses expressions, des professionnels adaptés après son vilain geste et a promis qu'il ne récidiverait pas avec le FC Barcelone, son nouveau club. Présenté à la presse pour la première fois depuis son transfert le mois dernier à Liverpool, une opération que le Barça a chiffrée ce mardi à environ 80 millions d'euros. Suarez a dit vouloir oublier le passé. La polémique née de son agression à l'encontre de l'Italien Giorgio Chiellini à la Coupe du Monde au Brésil.
Et puis Bagassi, ajoutons... on va parler du sélectionneur de Colombie, José Pekerman.
Oui, José Pekerman, il a prolongé son contrat de 4 ans avec donc, la sélection colombienne. Son précédent contrat, donc, âgé de 64 ans et arrivé à la tête de la sélection colombienne en janvier dernier. Son précédent contrat avait expiré le 31 juillet.
Merci beaucoup, c'était Bagassi Koura.
Et une petite pause musicale maintenant avec le groupe Latch featuring Sam Smith pour le titre Disclosure. You enchant me, even when you're not around. If there are boundaries, I will try to knock them down. I'm latching on, babe, now I know what I have found. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir.
Voilà, c'est sur ces notes de musique que s'achève notre émission Le Monde aujourd'hui, ça bouge derrière la vitre. Georges Léonard Sagnot était à la mise en onde. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à l'ensemble de la rédaction pour la préparation de cette émission. Claire Morin-Gibourg et Nicolas Pinault étaient à la présentation. On vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de La Voix de l'Amérique.